Vendredi 7 août 1914. Allongé sur l'herbe tiède des jardins du Faro, les bras repliés derrière la tête, Alphonse Richard ne mit pas une seconde pour fermer les yeux et se reposer un peu de son périple en chemin de fer. Dès l'arrivée en gare Saint-Charles, le régiment avait rejoint une caserne aux murs d'enceinte hauts comme ceux d'une prison. La marche opaque cadencée à travers de petites ruelles désertes, dans la lumière beige du petit matin, avait dégourdi les jambes du caporal. Il s'était échappé de la caserne, aussitôt le fusil et le paquetage déposés à l'armurerie et l'uniforme troqué pour une tenue civile fripée qu'Augustine lui avait glissée en vitesse dans le sac au départ de Digne. Le régiment ne partirait pas vers la Lorraine avant le milieu de l'après-midi. Ses camarades étaient restés à fumer dans la grande cour, d'autres avaient filé voir les filles dans les petits hôtels miteux du quartier. Lui s'était lancé à toute vitesse vers le cœur de la ville, agité par le désir violent de découvrir la mer. Il savait qu'elle l'attendait, là, à portée de main, et il avait marché jusqu'au palais monumental du Faro, qui trônait au-dessus du vieux port, pour en contempler sa grandeur. Bouche bée, il accrocha son regard au gigantesque transbordeur, ce pont métallique posé à l'entrée de la passe sur deux pylônes gris, aux pieds frôlés par une noria de mâts et de voiles. Il contempla le gris et le blanc qui s'échappaient des cheminées de toute taille, juchées sur des coques brillantes. Il s'amusa des arabesques, crayonnées par les pointus qui allaient et venaient, au pied d'un fort surveillé par une tour aussi massive qu'un phare antique de pierre rose. Ses bateaux l'attirèrent de l'autre côté des jardins, jusqu'à la ligne d'horizon où se dessinaient de fines taches blanches lancées vers le toit du ciel, au-delà des îles posées au beau milieu de la rade. Il devina des paquebots, il les imagina en partance pour l'Afrique ou de retour d'Orient, et il retrouva Marseille telle que ses instituteurs lui en avaient parlé à l'école, le spectacle de la mer en plus. Il se laissa envahir par l'odeur de sel et d'iode qui remontait des rochers en contrebas, et il se plongea dans le bleu foncé, ourlé du blanc vif, tracé par les coques de chaque bateau. Alphonse sortit carnet et crayon de sa poche et se mit à dessiner en tentant de chasser de son esprit l'image de Louise qui venait le torturer à petites touches. Cette ville, il regrettait de la découvrir tout seul. Mais il avait enfin vu la mer, il s'était enfin approché de ce mystérieux visage qu'il avait imaginé pouvoir entrevoir à chaque fois qu'il était monté au sommet du Cousson et qu'il s'était tourné vers le sud. Maintenant, cette merveille de Méditerranée, il pourrait l'emporter avec lui à la guerre. Il y repenserait avant de s'endormir, et même au plus fort des combats, elle serait là, cette mer, pour lui donner la force de faire front et de se battre, avant de redescendre à Marseille pour la saluer une fois la paix revenue. Vous dessinez bien, chapeau, jeune homme. Dommage que vous ne puissiez mettre un peu de couleur dans tout ça. Un vieux monsieur à casquette à carreaux et moustache blanche le sortit de sa bulle. Alphonse sursauta et lui sourit. Oh, merci, ce n'est qu'une esquisse, vous savez. Je reviendrai bientôt avec tout ce qu'il faut et mon dessin ne manquera pas de lumière. Je m'appelle Fernand, artiste peintre. Trop jeune pour mourir et trop vieux pour partir à la guerre. Venez avec moi, je vais vous montrer mes tableaux. Le vieil homme le conduisit vers son atelier, à 10 minutes à pied. Ouvert sur le vieux port, il jouxtait une criée aux poissons monumentale. Elle semblait tourner au ralenti. Ne restait qu'une poignée de vieillards aux épais doigts nourris de sel et de mer depuis des décennies. Des femmes leur donnaient la main, les yeux baissés sur leurs sabots. Alphonse ne s'attarda pas auprès des étals chargés de poissons multicolores et d'algues épaisses d'un vert presque aussi tendre que les salades d'Augustine. L'Angélus retentit, lancé par les clochers voisins. Il se rappela le terrible tocsin de dimanche et il frissonna comme un chien s'ébroue. Fernand lui présenta ses œuvres, toutes en équilibre sur des chevalets de fortune ou posées à même le sol de la pièce aux larges poutres apparentes. Des scènes de pêche, essentiellement. elle semblait avoir été peinte en mer, tant le trait manquait de netteté, comme si Fernand n'avait cessé de trembler au moment de faire danser son pinceau sur la toile. Il raconta à Alphonse sa passion pour le large, où il avait passé toute sa vie. D'abord à bord du pointu de son père, et puis à la barre de son propre bateau. Cette vie-là, il avait choisi un jour de la raconter en couleur sur ses tableaux. « Ça vous plaît ? Choisissez celui que vous préférez, il est à vous. » Alphonse ne sut que répondre. Ce cadeau l'embarrassait plus qu'il ne le ravissait. Il resta un instant figé dans le silence, et il finit par expliquer qu'il quitterait Marseille dans quelques heures à peine, et ne pourrait emporter de tableau à la guerre. « Je reviendrai bientôt vous voir, et promis, ce tableau de baignade entre deux bateaux, je le remonterai à Digne. Et je l'accrocherai, bien en évidence, dans la salle à manger de ma maison. » Fernand acquiesça, et il s'échappa un instant vers un buffet en bois foncé, d'où il tira un objet en cuir fauve, qui ressemblait à un gros étui à cigare et qu'il tendit à Alphonse. « Ceci, vous pourrez le glisser dans votre vareuse, mon ami. Prenez-le, et ne me dites pas non. » Alphonse ouvrit l'étui et en sortit un objet noir et oblong, formé d'un boîtier en métal et d'un soufflet pyramidal orné de croisillons argent et d'un œil au sommet fixé sur une plaque fine. « Tenez, prenez aussi cette boîte. Elle contient des rouleaux de film. Avec ça, vous nous ferez de belles photographies, jeune homme. J'espère que vous m'en enverrez quelques-unes. Je vous ai écrit mon adresse à l'intérieur de l'étui. » Ému aux larmes, Alphonse remercia Fernand en gardant sa main dans la sienne pendant de longues secondes. Mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il ne sut trouver les mots pour lui confier que de ce vest-pocket de Kodak, il en rêvait depuis ses années de régiment, où Tonin, un camarade photographe, l'avait initié à la prise de vue. Alors que de l'église Saint-Victor s'échappait le son puissant des cloches, Alphonse remonta vers la caserne à pas lents, empli du souvenir de Tonin. Emporté par une crise cardiaque au début du printemps, il ne serait pas du voyage vers la Lorraine.